Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA 107.5, 101.7 autour de Luc en DIWA. On est content de vous retrouver en ce dimanche. On espère que vous profitez bien de cette matinée. En tout cas, nous, on est venus pour vous parler d'astronomie. Alors aujourd'hui, on est assez nombreux dans le studio. Donc,
ça fait plaisir.
Et ça fait plaisir, oui, parce qu'on a reçoit deux invités aujourd'hui, donc qui sont Marc et Marie-Claire. Donc, bienvenue à vous. Merci d'être là. Donc, vous êtes des astronomes amateurs. Et Marc, tu as installé chez toi un télescope à Die, et tu nous raconteras un petit peu ton parcours dans cette pratique. Ça fera un peu un exemple. Hein, voilà, de... Il n'y a pas que nous, à l'Étoile Polaire, dans le DIWA, qui faisons de l'astronomie. Il y a aussi plein de gens, en fait, qui ont des télescopes et qui font des trucs dans leur coin. Voilà. Et puis, bien sûr, Axel et Pierrick.
Salut.
Bonjour tout le monde.
Alors, c'est l'épisode 44 de l'Étoile Polaire. On veut s'excuser parce qu'on a eu, des petits soucis là avec le robot de RDIWA.
Ah oui.
Et on n'a pas été diffusé comme on l'aurait dû. Donc l'épisode 43 sur les 5 dernières semaines est passé une fois, malheureusement. Voilà. Donc vous pouvez par contre retrouver cette émission comme toutes les autres sur le podcast, hein, sur le site de RDIWA, rdwa.fr. Émission thématique, l'étoile polaire. Voilà. Donc désolé encore si vous avez essayé de nous écouter.
C'est la faute au robot.
C'est la faute du robot, voilà, les machines qui, une fois de plus, viennent mettre le chaos dans nos vies.
On fait de notre mieux et voilà.
Alors, le sommaire de cet épisode 44. Et bien d'abord, le ciel ce soir. Axel, tu vas particulièrement nous faire un petit focus sur le lion.
Oui, tout à fait.
Une belle constellation là, qui commence à se lever, à arriver dans le ciel. Ensuite, on parlera un petit peu de quelques actus de l'astronomie. Ensuite, je ferai un point d'astro sur le zodiaque, expliquer un peu ce que c'est exactement que ce zodiaque d'un point de vue astronomique. Hein. Et dans l'idée d'ouvrir un peu une série d'émissions consacrées au thème aussi de l'astrologie et des connexions qu'il peut y avoir entre l'astronomie et l'astrologie. Voilà. Ensuite, la chronique de Pierrick qui nous revient de pays ensoleillés et qui va nous parler des couchers de soleil.
Tout à fait, ouais. Les belles observations que j'ai faites.
Voilà. Et puis on terminera donc l'émission, comme j'ai dit au début, avec une discussion avec Marc et Marie-Claire. Voilà. Alors Axel, c'est parti, le ciel ce soir.
Eh bien oui, alors le ciel de ce mois de mars, je vais commencer par les planètes, c'est un petit point d'actu aussi, avec cette conjonction entre Vénus et Jupiter, qui a eu lieu il y a maintenant quelques jours, elle commence à s'éloigner. C'est visible à la fin de journée, juste à la tombée de la nuit, derrière le soleil, à l'ouest, on voit deux étoiles très brillantes, et je sais que beaucoup de gens l'ont remarqué, parce que j'étais avec un ami en voiture en train de lui en parler, et j'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait « Axel, c'est quoi ? C'est des points dans le ciel
!» Trop bien.
Ouais. Et voilà, ça a été un petit peu médiatisé aussi dans la presse généraliste. C'est ce rapprochement apparent de ces deux astres très brillants, en plus Jupiter et Vénus, qui est apparent uniquement pour nous, hein, c'est un jeu de perspective, de la Terre qui tourne autour du Soleil, on progresse dans l'espace et les angles de vue changent, les points de vue changent. Voilà. Donc on a vu en un mois, en plus ça a été assez rapide, en un mois on avait Jupiter qui était encore au méridien, en direction sud, Vénus derrière le Soleil comme à son habitude, et puis en un mois elles se sont rapprochées jusqu'à pouvoir être visibles côte à côte dans un instrument d'observation. Ce que j'ai pas pu faire parce qu'il y avait des nuages à ce moment-là.
Pareil, nuages plus montagnes en ce qui me concerne. Ouais. Donc ce serait quand même assez bas sur l'horizon,
oui.
L'affaire. Donc,
oui, plutôt. Ouais.
Ce qui est toujours étonnant, c'est de voir Vénus qui remonte et Jupiter qui se couche. Ouais. Pour moi, je trouve ça... c'est des planètes et du coup... c'est un jeu de perspective, comme tu disais, ouais. D'angle... qui fait qu'il y a une planète qui remonte et une autre qui descend. Parce qu'il y en a une qui est beaucoup plus loin... que nous et Vénus qui est beaucoup plus proche du Soleil.
Ça ne va pas tout à la même vitesse
et, oui.
Et ainsi de suite. J'ai pu le voir quand même à travers les nuages. un petit peu, et puis les jours d'après où elles étaient moins proches, mais quand même assez impressionnant. Voilà, et puis sinon, on a toujours Mars, qui brille bien dans le ciel, qui se fait de plus en plus petite au télescope, et à l'œil nu de moins en moins brillante quand même. Elle commence elle aussi à s'éloigner. Et elle reviendra, c'est dans 2 ans je crois, c'est les cycles de Mars, les oppositions.
Ouais. Ouais.
Voilà, pour les planètes. Et puis comme Fred, tu m'as dit que tu voudrais parler aujourd'hui d'astrologie, commencer à parler d'astrologie, je me suis dit que j'allais parler d'une constellation du zodiaque qui n'est autre que le lion, qui n'est pas visible dès le coucher du soleil, quoique... c'est plutôt une constellation de printemps, mais on y arrive petit à petit. Je prends un peu d'avance parce que j'en ai marre de l'hiver.
Mais c'est clair, mais quand on voit que le lion arrive, tout de suite, on se dit, ah, c'est un petit goût. Et en fin de nuit, quand on voit arriver, on voit Hercule. En fin de nuit, on commence carrément à avoir le ciel d'été en fin de nuit. Donc là, tu sais que l'hiver touche à sa fin quand même.
C'est vrai que ce petit balai des constellations est toujours plaisant.
Ouais, observer sur l'année.
Ouais.
Et ouais, Arcturus qui se lève en ce moment à l'est.
Arcturus qui se lève aussi, ça c'est beau. Ouais.
Et bien justement, c'est un peu dans cette zone-là, le lion, pour le retrouver, on part de la casserole de la grande ours, qui en ce moment, quand elle apparaît, est dressée sur le manche, un peu en forme de point d'interrogation. Et pour la retrouver, on descend, on prend, je crois que c'est les 2 étoiles de gauche de la casserole, et qui tiennent le manche là, voilà.
Si vraiment on prolonge la courbe du manche de la casserole,
ouais,
on arrive dessus.
Ouais, c'est ça.
Vraiment,
on descend et on arrive sur le lion qui fait
brillante.
Un grand trapèze. Que le trapèze est assez visible et assez vide au centre. Et puis avec le bon ciel qu'on a dans le Diois, on voit aussi très bien la tête qui fait une petite faucille qui remonte comme ça.
Juste précise, c'est pas la courbe de la casserole qu'il faut prolonger. Si tu prolonges la courbe de la casserole, tu arrives dans la Vierge.
Arcturus. Ah non, alors
laisser l'épi dans Arcturus puis l'épi. La courbe, ça donne Arcturus.
Alors on prend la casserole, on la met à plat et on va dessous.
Voilà, ouais, c'est sous la grande ours, le lion.
Et si on prend les 2 étoiles à gauche de la casserole, qui font le carré de la casserole, on descend là, on prolonge et on arrive à Régulus, qui veut dire le petit roi, qui est l'étoile principale du lion, et qui s'appelait avant Corléonis, je crois, c'était le cœur de lion. Et elle aura observé, dans le lion, il y a beaucoup de choses, il y a énormément de galaxies, vous ouvrez une carte du ciel, une carte d'astronomie, dans le lion, vous verrez, il y a des galaxies de partout, et j'en ai photographié 2, qui peut-être pourront illustrer ce podcast sur le site. Ouais, voilà, plein de galaxies dans le lion, il y a le couple M95 et M96 que j'ai photographié, et puis il y a le triplet du lion, qui sont 3 galaxies aussi assez visibles, elles sont toutes à la même distance à peu près de nous, je crois que c'est dans les, je ne dis pas de bêtises, 50 millions, quelque chose comme ça, d'années-lumière. Elles font partie du groupe local en tout cas, des galaxies avec Andromède, la plus proche de nous, et notre Voie lactée. Voilà, donc j'aime bien ton image, Fred, tu as sorti un soir d'observation. Tu parlais de la Vierge, mais c'est vrai aussi dans le lion. Tu donnes un coup de pied dans le télescope en visant le lion et tu tomberas sur une galaxie. C'est presque ça. Voilà, amusez-vous, mais soyez prudents avec vos instruments.
Non, c'est vrai que c'est une zone vraiment riche en galaxies, même pas très loin de ça, un peu plus à l'est, il y a tout ce qui est la chevelure de Bérénice. Oui. Là aussi, il y a énormément de... De galaxies. La Vierge aussi, c'est une zone qui est pleine de galaxies.
Oui, l'amas de la Vierge, qui est un amas de galaxies.
Voilà. Et c'est vrai que le Lion, c'est vraiment, ça fait partie vraiment des belles constellations du ciel, je trouve.
Oui.
Elle est bien définie. Oui. Déjà, elle est assez étendue, assez grande.
Oui.
Et autour, c'est un peu sombre. Donc, elle est quand même bien claire. Dans le ciel et vraiment la tête du lion là, ce petit arrondi au-dessus du trapèze, c'est assez joli.
Je la trouve bien représentative d'un animal, quoi, d'un lion avec la tête, le corps, les jambes.
Plutôt un lion allongé vu de profil. Là.
Vu de profil, oui.
C'est ça.
Tout à fait. Et puis donc c'est aussi un signe du zodiaque, probablement des auditeurs qui sont du signe du lion, et on en parlera un peu plus tard.
On parlera un peu plus tard. Eh bien, très bien pour ça. Oui, c'est vrai que là, on arrive aussi dans une... Tu parlais des planètes au début, mais moi, je me suis fait la réflexion qu'on arrive dans une période moins propice pour l'observation des planètes, parce que là, cet hiver, on était quand même bien. Là, on pouvait observer Saturne, Jupiter, Mars. En même temps, là, il ne nous reste plus que Mars, en réalité. On voit Vénus, mais bon, à observer là, c'est pas très, forcément très intéressant.
Ouais, Jupiter est très basse aussi, ça doit pas être intéressant.
Voilà.
Il reste Mars, mais qui est de plus en plus petite.
C'est ça. Là, je l'ai observé l'autre jour. Bon, l'image était pas.
C'était petit. C'est la saison des planètes est finie.
Donc,
la saison des galaxies s'ouvre.
Commence. Ok, alors merci Axel. On va passer aux actualités. Un petit peu de l'astronomie. La première dont on pourrait parler, c'est un peu faire un retour sur l'observation de la comète là, qui nous a visité le mois dernier. On en avait parlé dans l'émission d'avant. On avait parlé de cette conjonction Mars avec Mars le 11 février.
Oui.
Donc voilà, moi j'ai pu l'observer et j'étais bien content. Donc, même si l'image de Mars n'était pas extraordinaire, en fait, là où j'ai trouvé que c'était le plus beau, bizarrement, c'était aux chercheurs. Parce qu'en fait, aux chercheurs, t'avais la petite tache floue quand même de la comète et Mars.
Et Mars, oui.
Et c'était aux jumelles aussi, c'était super joli.
Moi, je les ai observés aux jumelles, grâce à vous d'ailleurs. J'étais dans des contrées lointaines et j'ai écouté l'émission, le 11 février, j'étais là avec mes jumelles. Et du coup, c'était facile de la voir en pointant Mars, aux jumelles. Et ouais, elle était belle, elle se résout bien, même si c'est quand même très diffus.
C'est un petit nuage diffus.
Vous avez vu de la couleur ou non?
Non,
on avait. Mais...
En tout cas, on voit une traînée. On voit une espèce de truc un peu vaguement courbe, avec un point plus brillant au bout et qui se diffuse petit à petit en reculant. Ouais. Et ouais, c'est un beau spectacle.
Et toi, Marc, tu l'as observé là, la comète, non?
Du tout.
Bon. Elle reviendra pas, celle-là, alors c'est raté, mais il y en viendra d'autres.
Je serai plus là pour la voir.
Non, mais celle-là, je crois qu'ils ont calculé qu'elle sortait du système solaire.
Ah, d'accord. Ouais.
Voilà. Ok, c'était juste à mentionner cette petite observation de la comète. Oui. C'est pas tous les jours qu'on en observe quand même, ça fait plaisir. Celle-là, elle était quand même assez. C'était pas la plus spectaculaire, mais quand même, il y avait quelque chose à voir. Quoi. C'est pas juste un petit point. Voilà. Ensuite, tu voulais nous parler.
Juste pour finir sur la comète, j'ai fait une photo. Rémi a fait une très bonne photo de la comète et Mars en grand champ. C'était pas au moment de la conjonction, mais en faisant une photo grand champ, il a les deux dans le champ et c'est bien chouette. Ouais. Et moi, j'ai pu l'observer à l'œil nu. Brièvement, enfin, de distinguer à l'œil nu et au télescope. Par contre, ouais, c'était assez chouette de pouvoir voir ça. Et par contre, en photo, au traitement, je me suis arraché les cheveux. Et j'étais bien content qu'elle revienne jamais, qu'on en parle plus.
T'as observé de la couleur, toi, Axel, avec ton télescope ou...
Non.
Non.
Non, au télescope, c'était grisâtre, la couleur des nébuleuses, un peu, le gris bleu. Mais par contre, en photo, rien que sur une photo brute, le vert apparaît.
Ouais. Ouais.
Elle a été surnommée la comète verte. Et en photo, ça sort bien quand même.
Okay. Ouais, ça en visuel, moi, j'ai pas vu. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé chouette dans l'idée de... quand on observe une comète par rapport au fait d'observer les objets qu'on voit d'habitude, c'est ce côté un peu... c'est un visiteur, la comète. C'est un truc qui vient un peu de loin et qui passe vite, en réalité.
Ça passe assez vite. Hein. De chaque nuit, ça
bougeait
vite,
vraiment vite dans le ciel. Ouais. D'une nuit à l'autre, c'était net, le déplacement.
Vraiment.
Ok, moi je voulais parler un petit peu, là pour le mois de mars qui va venir, de Cérès. Donc Cérès, c'est une planète naine qui est dans la ceinture d'astéroïdes.
Oui.
C'est un petit monde, Cérès, qui intéresse pas mal quand même les astronomes et en particulier les exobiologistes et tous ces gens-là, parce qu'ils aimeraient bien aller voir un peu ce qui peut s'y passer. Est-ce qu'il y aurait de l'eau? Est-ce que... Voilà. Il y a plein de questions sur Cérès. En tout cas, Cérès va passer devant une galaxie spirale qui est M100 à la fin du mois, là, la nuit du 27 au 28 mars. Alors ça peut être intéressant à observer. Et de toute façon, d'essayer d'observer Cérès. Bon, alors c'est petit, Cérès, hein, tout petit. Je sais, moi, je ne l'ai jamais vu au télescope. Tu l'as déjà observé?
Non, Cérès, non. Mais même aucune planète naine.
Ouais, donc je sais pas. Par contre, là, l'idée, c'est qu'il va y avoir un transit, puisque cette nuit-là, entre 22h et 1h du matin, Cérès passe devant M100. M100, c'est une des galaxies de la Vierge. Alors peut-être qu'avec un gros télescope, il y a possibilité de voir ce transit, de voir un point noir qui passe devant la, la galaxie. Oui. Bon, apparemment, ce serait même observable aux jumelles. Alors là, je suis un petit peu étonné, mais c'est ce que dit Ciel et Espace. Je ne sais pas, donc à vérifier.
Je sais pas, je pense que le diamètre apparent pour l'observer vraiment aux jumelles, non, mais par contre, pour percevoir la perte de luminosité de la galaxie, ça c'est... Peut-être.
Peut-être.
Wow, ça devient...
Mais on voit bien l'ombre des satellites. Tu vois, par exemple, tu vois bien quand il y a un transit sur Jupiter, tu vois très très bien. Et la taille en fait, de CRS par rapport à la taille d'un satellite de Jupiter, j'imagine que c'est à peu près comparable.
Ah, oui.
Oui, c'est même plus proche.
Et c'est plus proche. Donc, je sais. Bon, en tout cas, je le mentionne, c'est intéressant. Moi, c'est un petit monde qui m'intrigue, CRS.
Oui, je note la date.
Et voilà.
J'essaierai d'observer ça. On essaiera du coup.
C'est ça. Donc voilà pour ça. Toi, Axel, tu voulais nous parler de cette étrange nébuleuse là qui a été prise en photo par un astronome amateur.
Exactement. Et les astronomes amateurs peuvent parfois faire des découvertes assez incroyables d'ailleurs pour celle-ci, puisque c'est un amateur qui a pris une photo de.
C'est majeur même. Hein. C'est une découverte majeure. Hein. C'est plutôt, vraiment. Ouais.
Il a pris en photo la galaxie d'Andromède, M31, et qui est donc la galaxie la plus proche de nous et probablement la plus étudiée, la plus photographiée, la plus grande dans le ciel, tout ce que tu veux. Donc on a énormément de données sur Andromède, on étudie même des choses qui se passent dans Andromède, des amas d'étoiles dans Andromède, ou des choses comme ça. Et on n'avait jamais vu jusqu'à, ça date d'il y a peut-être 2 mois maintenant, ce nuage de gaz qui apparaît, donc cette nébuleuse, qui est apparu sur la photo de cet astronome amateur et qui fait quasiment la taille de la galaxie qui se trouve au-dessus, qui est une sorte de nuage parallèle, un peu comme ça, qui fait à peu près la même forme oblongue. Et alors que pourquoi, me direz-vous, c'est lui qui l'a découvert, pourquoi sur son appareil photo et pas sur les autres? Et parce qu'en fait, il a utilisé un filtre en astronomie, en visuel. Celui-là s'utilise en visuel d'ailleurs, c'est le filtre dit O3, oxygène 3, qui permet de capter seulement la lumière, de laisser passer seulement la lumière émise par l'oxygène. Et pour les galaxies, c'est pas intéressant de shooter en oxygène. Il n'y a pas plus que d'oxygène à voir que ça. On prend en lumière complète et ça marche très bien, un petit peu d'infrarouge. Voilà. Mais mettre ce filtre pour essayer de capter l'O3 spécifiquement, l'oxygène 3 fois ionisé, ça se fait pas sur les galaxies. Et donc c'est peut-être le premier à l'avoir fait, surtout à l'avoir fait en aussi longtemps, parce qu'il a fait des temps de pause immenses. Et puis il a vu cette tâche apparaître. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Ce serait quand même fou que je découvre un truc.
Il a même dit que lui-même, il ne sait pas s'il l'aurait vu, parce qu'il a passé la photo à plusieurs de ses amis. Et ses amis ont dit, ah là, il y a un truc quand même, c'est bizarre. Et lui, il n'avait même pas remarqué, je crois.
C'est ça. Alors après, il y a une collaboration.
Je serais peut-être passé à côté, je me serais dit, ah, c'est une erreur.
Oui, de ce que j'ai lu, il y a une collaboration d'astronomes amateurs un peu partout dans le monde avec qui ils ont discuté. Ils ont accumulé des pauses entre eux pour faire une photo, pour faire ressortir cette nébuleuse. Et maintenant qu'ils sont sûrs que ce n'est pas un problème d'instrument, que ce n'est pas un artefact dû à leur capture ou quoi que ce soit, les scientifiques s'y intéressent. Et donc, on sait que c'est de l'oxygène, on sait que ce n'est pas visible ni en infrarouge, ni en ultraviolet, ni en lumière visible, pas en radio non plus, c'est uniquement en oxygène. On sait que c'est plutôt proche d'Andromède, ce n'est pas dans la Voie lactée, ce n'est pas au premier plan. Mais on ne sait pas encore ce que c'est. Voilà. C'est comme ça, en science, il faut attendre. On découvre des choses et on se pose des questions pendant des années.
Mais ce qui est sûr, c'est que c'est énorme, en taille. Quoi.
Ah oui, oui.
Et je pense que ça ouvre aussi des questions, tu vois, sur le milieu interstellaire et en réalité sur ce qu'on croit être le milieu interstellaire. Et de réaliser en fait, qu'il y a des nébuleuses aussi énormes comme ça, qu'on n'avait pas vues. En fait, ça pose aussi, je pense, aux astronomes des questions sur. Mais il y a peut-être plein de choses qu'on a. Enfin, ils savent qu'il y a plein de choses qu'ils n'ont pas vues, mais voilà, tiens, il y a peut-être un concept qu'on n'a pas encore envisagé. Quoi. C'est à suivre.
Ouais, voilà.
En tout cas, moi, je tire mon chapeau à ce bonhomme qui a posé des heures et des heures.
Je crois que c'est 22 nuits. Je ne sais plus combien d'heures de pause.
22 nuits cumulées. Il s'y
est mis pendant 22 nuits.
Et il habite en ville, donc il ne peut pas faire ça en ville, du coup. Tous les soirs, ou dès que c'était possible, en tout cas, parce que la météo est un facteur important, dès que c'était possible, il allait à la campagne, déballer tout son matos, passer 8 heures à observer et à rentrer. Enfin, c'est une belle prouesse quand même.
Ouais.
Voilà.
Donc voilà pour cette intrigante histoire de nébuleuse. On va terminer ces actus avec une petite mention quand même pour l'équinoxe qui arrive donc cette année le 20 mars. Donc équinoxe, c'est donc le début du printemps. On rappelle quand même équinoxe, ça veut dire qu'il y a autant de... Il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit à ce moment-là de l'année, n'importe où sur la planète. Donc voilà. C'est un nouveau cycle là à partir de maintenant. On va avoir plus, les jours vont être plus longs que les nuits. Alors, arriver à visualiser un peu pourquoi, enfin, à quoi ça correspond géométriquement en fait l'équinoxe. On a déjà évoqué ce genre de truc, mais c'est pas forcément complètement évident d'imaginer la Terre qui tourne sur elle-même autour du Soleil. Et son axe de rotation est incliné par rapport à ce plan de rotation autour du Soleil. Donc ça, c'est déjà, donc une toupie penchée, on pourrait voir ça comme ça, quoi, qui tourne autour du Soleil. Et en réalité, c'est le moment de l'équinoxe, c'est le moment où l'axe de rotation de la Terre se retrouve dans un plan qui est tangent à la trajectoire. C'est un peu ça l'idée, si on visualise un peu
perpendiculaire.
Un plan perpendiculaire. Et voilà. Donc ça nous donne quatre positions particulières sur l'orbite qui vont être les deux équinoxes de printemps, d'automne et puis les deux solstices d'hiver et d'été. Quoi. Ouais. Donc on le mentionne quand même. Moi je sais que c'est un moment de l'année que j'aime bien. Ça fait toujours plaisir. Ce petit renouveau, que les jours rallongent, qu'on rebascule dans autre chose et dans tout ce ciel de printemps qui nous arrive.
Et puis on change d'heure en plus.
Et on va changer d'heure à ce moment-là aussi. Voilà. Voilà pour ces actualités. On va passer au point d'astro et donc parler du zodiaque. Donc, comme je disais en introduction de l'émission, l'idée un peu derrière ça, c'est de démarrer une thématique sur l'astrologie. Alors, ça peut paraître surprenant dans une émission d'astronomie, puisque quand même, l'astrologie est globalement entièrement dénigrée par l'astronomie, qui considère que tout ça est un vaste tissu de foutaises. Alors... je n'ai pas du tout envie de rentrer dans un débat de savoir pour ou contre, parce que ce n'est vraiment pas en fait, un sujet qui m'intéresse. Chacun il pense bien ce qu'il veut. Dans la globalité, ce que j'ai quand même envie de faire, c'est de présenter un peu les arguments de la science concernant la non-possibilité que l'astrologie existe. Mais aussi de temporiser un petit peu cet argumentaire qui, en réalité, peut être aussi lui-même argumenté. Et de donner la parole aussi à des gens qui, eux, pratiquent l'astrologie et nous expliquer pourquoi et comment ça leur plaît de faire ça dans leur vie. Voilà, je rappelle quand même qu'il y a un lien historique extrêmement fort entre les deux disciplines qui en réalité, ont toujours été les mêmes jusqu'à la Renaissance, on va dire. Ouais. C'était les mêmes personnes qui pratiquaient les deux, qui ont d'ailleurs été souvent pendant longtemps aussi des prêtres. Au passage, pendant toute l'Antiquité, c'était les prêtres qui pratiquaient l'astronomie, qui faisaient de la divination avec et qui faisaient de l'astrologie. Tout ça, c'était la même chose.
Et en Inde encore, c'est encore lié très fortement à l'astrologie et l'astronomie et la religion et tout ça, c'est encore présent dans ce pays très fort.
Ouais, les liens modernes, enfin l'astronomie, je ne sais pas s'ils ont gardé beaucoup de liens avec l'astrologie en Inde. Par contre, l'astrologie indienne est toujours vivante, ouais, ça c'est sûr. Oui. Et c'est effectivement plutôt quand même les brahmanes qui pratiquent ça. Quoi. Mm. Donc oui, le lien est toujours là. Voilà, donc ça c'est un peu pour la vision d'ensemble. Ça va s'étaler sur plusieurs émissions. Et là aujourd'hui, le point de départ pour moi, c'est le zodiaque. Donc on parle des constellations du zodiaque, ça c'est pas une invention de l'astrologie, c'est une réalité astronomique de l'observation du ciel. On l'a déjà évoqué à quelques reprises je pense dans l'émission, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de vraiment visualiser ce que c'est que ce zodiaque et pourquoi on parle de ces 12 constellations-là en particulier.
Alors qu'il y en a 80 autres.
Alors qu'il y en a 80, voilà, plus de 80 constellations. Donc l'idée en fait, c'est un peu de la géométrie. étendue. On imagine le système solaire, on imagine le Soleil au centre, on imagine les planètes qui tournent autour du Soleil, toutes dans plus ou moins le même disque. Okay, voilà, et dans le même sens, à des distances différentes, mais toujours dans le même disque. Donc maintenant, on essaie de se placer du point de vue de la Terre, parce que en fait, l'astrologie, elle se place du point de vue des humains et de la Terre. Donc de notre point de vue, on va essayer de repérer quelle est la position du Soleil dans le ciel. C'est ça en fait qui va nous intéresser. Et en fait, imaginons qu'il n'y ait pas d'atmosphère sur Terre, en fait, ou que voilà, qu'on puisse voir les étoiles en plein jour. Ouais. Et ben le Soleil, il apparaîtrait sur le fond du ciel quelque part. Il est dans une constellation. Ouais. On le voit, d'accord. Donc ces étoiles de la constellation sont beaucoup plus loin que le Soleil. Derrière, c'est un effet de projection, mais on a quand même l'impression de voir le Soleil quelque part. De la même façon que la nuit, vous voyez la Lune, et derrière, vous voyez une constellation.
Ou les planètes aussi.
Ou les planètes, ouais. Voilà, qui se promènent aussi à côté de nous et qui se projettent sur le fond du ciel. Donc, on projette le Soleil comme ça et on regarde où il est. Et en réalité, maintenant, imaginez donc toujours ce système solaire, la Terre qui tourne autour du Soleil. Imaginons une date précise, voilà, la Terre est à un certain endroit. On fait un stop à cet endroit-là, on regarde le Soleil se projette sur une certaine constellation. Maintenant, vous faites un demi-tour sur l'orbite. Vous imaginez bien que le Soleil, 6 mois plus tard, il se projette sur une constellation, mais qui n'est plus du tout la même, qui est celle qui était de l'autre côté. Et donc évidemment, à mesure en fait, que la Terre tourne autour du Soleil, on a l'impression que le Soleil se déplace sur le fond des étoiles, à mesure de l'année. Et en réalité, quand on regarde ce cycle, qui fait un an, on voit que le Soleil, il est passé dans... Alors, on ne va pas mégoter, on en reparlera. 12 constellations, sinon c'est 13, blabla. Ça fait partie des argumentaires qu'on reprendra. Mais si on regarde, en gros, les endroits du ciel où se trouve le Soleil tout au long de l'année, vous retrouvez ces 12 constellations qui sont donc les 12 constellations du zodiaque. Et on a décidé de faire prendre l'origine de ce zodiaque, le démarrage, et bien justement au moment de l'équinoxe de printemps, donc le 20 mars cette année, et de faire démarrer l'année astrologique avec le bélier à partir du 22 mars.
Ok.
Donc ça correspond au moment, normalement, où le Soleil se trouve à ce moment de l'année. Quoi. Donc c'est ça le signe de naissance, le signe astrologique, c'est ça. C'est-à-dire qu'on regarde au moment où vous êtes né, où se trouve le Soleil, dans quelle constellation il est. Donc forcément dans une de ces 12 constellations du zodiaque, puisqu'on a vu que c'était ça son mouvement dans le ciel. Quoi. Donc voilà comment est défini le signe astrologique. Au passage, l'ascendant, lui, est défini un peu différemment puisqu'il est considéré comme étant la constellation qui se lève à l'est au moment et au lieu de votre naissance. Okay. Alors là, on rentre dans un autre concept. Là, c'est plus, c'est quand même une observation astronomique de dire, voilà, je nais à tel moment et à tel endroit, donc c'est telle constellation du zodiaque qui se lève à ce moment-là. Maintenant, là, de là en faire des de là en tirer des conséquences, on rentre vraiment dans l'astrologie. Donc là, c'est pas le sujet du jour.
C'est pour la semaine prochaine. Enfin, la prochaine.
Là, le sujet du jour, c'est comprendre ce que c'est que ce zodiaque.
Mais déjà, moi, je savais pas ce que c'était l'ascendant. Moi, des fois, le public me demande qu'est-ce que c'est l'astrologie. Enfin, moi, je dis juste que ce que t'as dit, le Soleil, il est dans une constellation au moment de notre naissance. Paf, c'est notre signe. Et par contre, l'ascendant, je savais pas. Mais du coup, si je comprends bien, tu peux pas du coup avoir n'importe quel signe avec n'importe quel ascendant.
Si.
Tu peux pas être cancer ascendant lion.
Tu peux naître à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
Oui, mais le soleil, c'est en semaine qu'il change de constellation, pas en heure. Du coup, si le soleil est dans le cancer et qu'il se couche, il y a le lion juste derrière qui se couche, ça peut pas être ton ascendant, il faudrait qu'il soit en train de se lever. Si j'ai bien compris.
Ah oui, non, mais ça
en ascendant, pour un signe donné, tu dois avoir, je sais pas, 3 signes ascendants possibles ou...
Non,
je sais pas.
Mais non. Par exemple, le soleil, c'est à 8h du matin. Dans la constellation du lion,
oui.
Si, tu peux être lion, ascendant lion. Ça n'a rien à voir, en fait.
Ah, d'accord, en fonction de ton heure. D'accord.
Le soleil, tu l'oublies pour l'ascendant.
Ah oui, ok, c'est juste quelle constellation se lève au moment et à l'heure. Ah oui, d'accord, j'avais mal compris.
Indépendamment du soleil.
D'accord, merci. J'ai compris.
Bon, donc voilà, en tout cas, pour cette notion de zodiaque. Alors, pour en revenir justement à cette histoire d'équinoxe, parce que ça amène aussi à des trucs assez qui peuvent être aussi assez intéressants. Donc, en fait, si on suit cette histoire, c'est-à-dire que là, actuellement, donc à partir du 22 mars, on rentre dans les béliers, c'est censé vouloir dire que le soleil rentre dans la constellation des béliers à ce moment-là. En réalité, ce n'est pas vrai. En réalité, le soleil qui est censé rentrer, selon l'astrologie, dans la constellation des poissons, alors c'est quoi du coup le 21 février ? En réalité, il rentre le 10 ou le 13 mars. Il y a trois petites semaines de décalage à cet endroit-là. Et ça, c'est dû à la précession des équinoxes. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. En tout cas, c'est effectivement un des arguments, j'anticipe un peu, mais pour dire bah, tout ça, c'est n'importe quoi, puisque rien que votre définition du signe, en fait, vous n'êtes même pas capable de l'appliquer correctement parce que vos tables sont fausses par rapport à l'observation du ciel. Et c'est clair que là,
il y a des grosses discussions
à avoir sur le sujet. C'est un argument de poids dans la balance. Et ça, bon, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir. Là, si vous regardez une carte du ciel, vous pouvez n'importe quoi, n'importe quelle, qui vous donne la position des astres en ce moment, et ben vous regardez où est le soleil maintenant, et vous verrez qu'il est encore dans le Verseau, et qu'en fait, il est même pas encore entré dans le Poisson, alors que officiellement, on est dans le signe astrologique du Poisson.
Mais ça, okay. Ça c'est dû à un décalage temporel.
C'est dû
au démarrage
géométrique.
En réalité, c'est dû au fait que ces tables d'astrologie, elles ont été établies à l'Antiquité.
Oui, voilà, elles ont 3000 ans, voire plus.
C'est ça, elles ont 2-3000 ans. Et qu'en fait, la précession des équinoxes sur cette période-là a induit ce décalage-là.
Oui, d'accord.
Donc la précession des équinoxes, j'avais consacré un point d'astro à ça. Je ne me rappelle plus dans quelle émission.
Ils ne sont pas trompés tout le temps. C'est un décalage temporel de plusieurs millénaires.
Ouais, tout à fait.
C'est pas juste une foirade totale.
Quand ça a été écrit, c'était juste,
c'était correct. Et voilà. Et donc, normalement, selon ces tables, en fait, ces tables ont été établies à un moment où, effectivement, au 21 mars, en fait, le soleil quittait les poissons pour rentrer dans le bélier.
Ok.
Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire une petite pause musicale. Alors, ce morceau, c'est une petite dédicace à Guillaume, notre ami Guillaume qui était venu à Marignac avec nous là, pour faire observer le public. Et c'est lui qui m'a parlé de ce groupe, la Kansas. Donc, Guillaume, dédicace à toi. J'ai bien accroché. Alors aujourd'hui, on va mettre le morceau Icarus.
Je vais juste remettre une petite dose.
Oui.
Ça y est, on a la date pour Marignac. On peut commencer à l'annoncer vu qu'on en parle.
Oui. Ouais.
Ce sera le 15 juillet.
C'est ça.
Ou le 16 juillet.
Ouais, ou le 16.
Le 15 ou le 16.
Ouais, ce sera ce week-end-là en tout cas, voilà. 15-16 juillet.
Ouais.
Bon voilà, on commence à le dire. Sortez vos agendas.
Lustrez vos jumelles.
et bon retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur Erdivoa. Voilà, ce petit morceau, c'était pour toi, Guillaume. Big up, on espère te voir bientôt. Bon, on passe à la suite. Alors, eh bien, c'est la désormais fameuse chronique de Pierrick qui va nous parler des couchers de soleil. Alors, thème qui peut paraître comme ça, un petit peu léger, mais il n'en est rien.
Et oui, je suis content de revenir à l'émission. J'étais absent deux émissions parce que j'étais parti en voyage et j'étais dans des contrées plutôt au sud. Et du coup, j'ai observé des magnifiques couchers de soleil. Et c'est toujours émouvant de voir autre chose que ce qu'on voit ici. Hein. Ça fait du bien. Et en tout cas, c'était toujours des beaux spectacles. Et effectivement, c'est banal. Mais c'est pas rien quand même. Je pense qu'on l'oublie un peu. On voit le soleil qui se balade. Bon, voilà, c'est comme d'habitude. Hein, mais il se passe plein de choses là-haut et c'est quand même beau. Donc, je vous invite à observer le coucher de soleil et à prendre plaisir. Et voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe un coucher de soleil? Déjà, on dit coucher, mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est nous, on le voit qui se couche, mais c'est notre planète qui tourne. Et en fait, le soleil, il bouge pas. Et c'est nous qui tournons et du coup, oui. Il passe derrière.
Il tourne sur elle-même. Voilà. Nous tournons sur nous-mêmes.
Oui. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe au moment du coucher? C'est que le soleil, il va proche de l'horizon. Et donc, la lumière du soleil, pour arriver jusqu'à nous, elle traverse beaucoup plus d'atmosphère que quand le soleil est au zénith, bien au-dessus de nous. Parce que comme la planète est une sphère, si on tire une droite un peu, on longe la sphère, eh ben, on va toucher beaucoup plus de surface d'atmosphère que si on est perpendiculaire à l'atmosphère terrestre, à la sphère. Donc à ce moment-là, c'est là où les couleurs apparaissent. Parce que comme le soleil traverse plus d'atmosphère, il se forme un espèce de spectre où là, la composition des longueurs d'onde de ce qu'il y a dans l'atmosphère. Donc notre atmosphère, c'est de l'azote, de l'oxygène, des gaz rares, un peu de poussière, un peu de pollution de plus en plus. Hein. Des nuages, la vapeur d'eau. Et donc tout ça fait que quand le soleil le traverse, eh ben, apparaît des nouvelles lumières. Et donc on connaît tous les couchers de soleil rouges, un peu plus rosés. Et en tout cas là où j'étais, au sud Espagne, sud Portugal, c'était vraiment magique. Tous les soirs, c'est un festival de couleurs incroyables. C'est jaune, rouge, pourpre. Violet, bleu, noir jusqu'à la nuit, c'est magnifique. Puis il y avait Vénus au milieu qui se levait là-dedans, c'était vraiment... Je trouvais ça magnifique. Voilà, donc ça c'était une belle expérience. Et du coup, voilà, comme j'étais plus au sud, eh ben, ça change l'angle d'entrée, l'angle d'attaque, d'entrée des rayons de soleil dans l'atmosphère. Et donc plus on descend, et plus le soleil, il se couche vite, parce qu'il est plutôt perpendiculaire. Plus on est vers l'équateur, le centre de la Terre, enfin le centre, la périphérie équatoriale, et ben l'angle d'entrée des rayons du soleil est perpendiculaire. Donc il va plus vite que plus on est au nord, plus on est au sud, hein, à l'inverse, au pôle, et ben les rayons du soleil ont plus tendance à raser l'atmosphère qu'à l'équateur. Voilà, donc ça, c'est un peu de la géographie étendue, comme on fait souvent. Et il y a aussi un côté qui est surprenant. Donc souvent, on se dit le soleil se lève à l'est, mais se couche à l'ouest. Ce qui est vrai, mais partiellement, en fait.
Oui.
En fait, il est parfaitement à l'est et à l'ouest deux fois par an, aux équinoxes. Donc la prochaine, tu en as parlé en mars, et aussi celle de septembre. À ce moment-là, le soleil est vraiment à l'est et à l'ouest. Il est vraiment perpendiculaire. Et petit à petit, en fait, après, le soleil, il se décale vers le nord de septembre.
Pour l'été ? Ah non.
De septembre à décembre, il se décale vers le nord. Jusqu'à... Donc, il passe à l'équinoxe pile à l'est ou à l'ouest sur ce même axe.
Oui.
Jusqu'en juin. Et après, il repart au sud. Voilà, il fait une petite balade comme ça. Et voilà. Donc ça aussi, je trouvais ça intéressant de savoir ce petit jeu qu'il y a dans le ciel encore, qui nous permet de savoir, nous repérer un peu l'est, l'ouest, tout ça. Mais il faut le savoir que c'est seulement deux fois par an, en septembre, en mars, aux équinoxes, qu'il est parfaitement positionné à l'est et à l'ouest. Voilà. Et j'ai désespérément essayé de voir ce fameux rayon vert. Donc,
qu'est-ce que c'est ce rayon vert?
C'est mythique, le rayon vert. Ben ouais. Moi, j'en rêve.
Mais moi aussi, mais bon, je ne sais pas si vous l'avez déjà observé.
Non.
Il paraîtrait, hein, ça a l'air vrai, hein, qu'au coucher du soleil peut apparaître à un certain moment une petite lueur verte au-dessus du soleil, vraiment très infime, très rapide, très éphémère. Ouais, qui est due à une réfraction. Donc une réfraction, c'est une variation dans la densité de l'atmosphère qui fait apparaître ce rayon avec le jeu des longueurs d'onde et des couleurs que...
Ouais, de la lumière d'or dans l'atmosphère.
L'idée, oui, c'est que ça diffuse tellement, parce que, comme tu l'as dit, effectivement, au moment du cocher, on traverse, en fait, la lumière qui vient du soleil traverse une grande portion d'atmosphère, plus grande que quand il est au zénith. Et du coup, il y a beaucoup plus d'effets d'optique, de diffusion et de réfraction. Et là, en fait, ça revient sur le rayon vert. Ça revient aussi à avoir l'idée que il y a tellement en fait de diffusion que tu te retrouves en fait avec des images
décalées
en fonction de la couleur, en fait,
comme une paille,
comme un spectre, en fait,
comme une paille dans un verre d'eau. Un bâton dans l'eau, on voit le bâton, et dès qu'il va dans l'eau, il part à un autre endroit.
Bah, mais c'est cette idée-là, mais du coup, et ça se fait différemment selon la couleur, en fait.
Ouais, appliqué à chaque couleur. Ouais.
Ça dépend, parce que l'indice varie en fonction de la couleur, l'indice du milieu. Et du coup, ça revient un peu à ça, les images, en fait, et il resterait cette image verte qu'on peut voir pendant une seconde ou deux.
C'est ça, parce qu'apparemment, comme la lumière se décale, fait genre une droite, puis d'un coup part plus bas, certains rayons partiraient à nos pieds, quoi, dans la terre, on verrait plus, tout ce qui est rouge, jaune, tout ça.
D'autres
et il y
en
aurait une petite partie verte au-dessus.
On imagine vert et alors bleu aussi, peut-être, tu vois, parce que du coup, ça serait logique. On parle du rayon vert, on ne parle pas du rayon bleu. En tout cas, tu l'as pas vu.
En tout cas, non.
Donc, voilà.
Et j'aimerais bien faire un petit point aussi. J'ai fait des observations jumelles sympas pendant ces vacances. J'avais que ça sous la main. C'est facilement transportable. Donc, j'ai pris mes jumelles quand même.
Ouais.
J'ai fait une belle observation de la comète aussi quand elle était proche de Mars. Voilà, j'en ai parlé. Et aussi, j'ai... Dans le cancer, donc juste devant le lion, il y a l'amas de la ruche. Et celui-là, il est quand même visible à l'œil nu. Ça fait un belle tache floue circulaire. Donc on voit une tache floue très diffuse à l'œil nu. Et quand on prend les jumelles, qu'on observe ça, et ben on le résout. Et c'est un amas ouvert. Et donc ça, je trouve ça beau quand même de... pointer sa petite paire de jumelles et de voir une tache floue et de pointer dessus et de voir plein d'étoiles.
Ouais, c'est composé de plein d'étoiles.
Voilà, un amas ouvert, c'est une espèce de pouponnière d'étoiles où il y a plein d'étoiles dedans.
Jaune,
oui, souvent c'est une zone de formation d'étoiles. Ouais. Donc voilà, je trouvais ça sympa de faire ça. Et aussi, je me suis beaucoup plongé dans Orion et sa grande nébuleuse d'Orion.
Ah oui.
Et c'est pareil, aux jumelles, on résout quelque chose de sympa. Qui est toujours plaisant, même pour les enfants, tout ça, c'est très rapide. En fait, c'est très rapide. On peut observer ça facilement.
Tu te souviens ce que c'est les caractéristiques de tes jumelles? Pour donner une idée aux auditeurs.
C'est 10-50.
Ok.
Ouais. Alors,
10-50, et encore, tu vois, c'est pas ce qu'il y a peut-être plus lumineux comme jumelles.
C'est pas apparemment, ouais. C'est mieux 7-50.
7-50, ouais. C'est ça, 7,50 ou c'est quoi après, c'est 8...
On dit du 80 après d'ouverture, sinon après, ça commence à faire gros.
Ouais,
8,50.
C'est plus les mêmes budgets. Quoi.
Ouais.
Et c'est pareil, la comète, même aux jumelles, elle se résout quand même, elle était bien. Donc, C'est un petit outil d'observation, mais voilà, qui est sympa.
Ah, mais il fait partie des, ouais. des instruments d'astronomie.
Ouais. Complètement. Il a sa place. Il, non seulement il a sa place, mais il a même son ciel, je dirais. Il
oui,
y a des choses en fait, qui s'observent bien qu'aux jumelles.
Oui.
Et même passer du temps à se balader dans le ciel aux jumelles, on trouve plein de mini-constellations qui font la taille du champ des jumelles, des petites... Il y a plein de trucs, en fait. Il y a tout un ciel, et moi je trouve que sur des objets un peu étendus, là on a eu déjà l'occasion de le dire, mais sur des objets un peu grands, la jumelle c'est presque mieux, parce que c'est la seule façon d'avoir l'objet dans sa globalité.
Oui, pour la galaxie d'Andromède par exemple.
Par exemple, franchement grossir sur la galaxie d'Andromède, bon, ça n'a vraiment jamais mené nulle part.
Oui.
Puis ce petit côté pratique, claque, on les sort, ça dure un quart d'heure, en hiver c'est cool quand même.
Oui.
Voilà.
Carrément.
Voilà, mes petites observations.
Très bien. Merci, Pierrick.
Ok, bah merci, ouais. On attaque la dernière partie de cette émission. On va discuter un peu avec nos invités. Donc, Marc et Marie-Claire, vous, on peut dire que vous êtes quoi, des astronomes débutants? Mais débutants quand même, pratiquants quand même.
depuis 3 ans.
Voilà, donc
débutants
confirmés. Déjà un petit parcours, puisque toi, tu as ton propre télescope.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui vous a conduit à l'astronomie et surtout le moment en fait, de franchir le cap entre regarder le ciel comme ça et se dire oh, c'est beau, j'aimerais bien en connaître plus et vraiment prendre un télescope, essayer d'apprendre le ciel et entrer là-dedans.
Alors ça a commencé, on s'est fait inviter à Valdrome en fait par un couple d'amis et on a pu voir Saturne, on a été franchement émerveillés et puis c'est vrai que les planètes, tout ce qui est cosmos, les années 60-70, c'était le premier homme sur la Lune, c'était ma jeunesse. C'était quelque chose qu'on observait, mais à cette époque, on n'avait pas les moyens actuels pour faire ces observations. Donc c'était un rêve. Et c'est... Valdrome m'a remis le pied à l'étrier, je dirais. Et puis, je me suis dit, tiens, je suis en retraite, j'ai du temps. Si je peux, j'achète un télescope et je me plonge un petit peu dans l'astronomie. J'ai parti comme ça. Donc je ne savais pas trop où j'allais, je ne savais pas ce... J'y connaissais rien, quoi, mon télescope. Hein. Donc je suis parti sur un Dobson, un 300, qui était déjà assez gros. Mais comme tout ce qui était étoile, j'étais dans le vague.
C'est ça, une fois qu'on a le télescope, il faut encore savoir quoi regarder et quoi pointer.
Voilà. Ouais. Comment s'en servir. Heureusement qu'il y a des tutos sur Internet. Pour
toi, tu as appris avec ça, tu as regardé
qu'avec
des
ça,
tutos.
Avec ça, okay. J'ai cherché à voir s'il y avait des clubs dans le Diwa, ailleurs. Enfin, plus proche, c'était à Beaumont-les-Vallanges, je crois. Donc, Donc, je me suis débrouillé avec des tutos. Voilà. Alors, j'y ai passé des heures, des nuits, pour rien.
C'est normal, je crois que...
C'est des nuits de galère où tu t'énerves, tu t'arrêtes une demi-heure, tu repars, tu recommences, et puis le lendemain, tu réussis, tu sais pas pourquoi.
C'est, donc, voilà. c'est un truc de patience, quand même.
Ah,
c'est,
tout à fait, oui. Ouais.
Ça prend du temps.
Ouais,
de...
ouais.
Sauf Axel, qui...
Ouais. Bon, après, on est aussi un petit peu déçus parce que quand on voit les reportages, quand on voit les photos, c'est tout de la couleur. Et quand on est dans le télescope, c'est du noir et blanc, quoi. Pour voir de la couleur au niveau télescope, il faut déjà avoir du bon matériel.
Il y a ce fameux décalage entre effectivement les photos grand public, qu'on peut trouver dans la presse, et en particulier du James Webb télescope ou bien du Hubble télescope à l'époque. Et ce qu'on voit quand on met l'œil à l'oculaire. Alors, c'est vrai qu'il y a un énorme décalage. On en a déjà parlé. Mais il reste quand même ce plaisir
unique, en fait, de
voir avec ses propres yeux une lumière en fait, non filtrée. C'est-à-dire que le télescope, c'est jamais qu'un miroir et un système de lentilles. Donc, en réalité,
il n'y a pas de déformation.
Il n'y a pas de transformation du signal. On n'est pas sur un écran, quoi que ce soit. On reçoit directement dans notre œil la lumière qui est émise, les photons qui sont émis par ce qu'on observe. Et ça crée quand même un sentiment particulier,
oui,
qu'on ressent ou qu'on ressent pas d'ailleurs, en fonction de ses affinités, mais
quand on passe des heures à chercher et quand on finit par trouver, là, c'est...
C'est un peu la chasse au trésor aussi.
C'est grand plaisir.
Et comment est-ce que tu as fait est-ce que tu connaissais déjà les constellations? C'est-à-dire, est-ce que tu savais déjà te repérer dans le ciel? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as dû apprendre aussi?
Oui, oui, j'ai appris. Encore, je ne connais pas grand-chose, hein, franchement. Et je suis parti plus maintenant sur un télescope avec des automatismes où il y a un premier calage à faire. Et ensuite, c'est le télescope qui va chercher ce que je veux voir. Quoi.
Donc, ce qu'on appelle les go-to, les choses comme ça.
Voilà. C'est un ordinateur qui va chercher pour moi. Mm-hmm. Parce que quand on n'y connaît rien, franchement, ça rend service. Après, bon, il y a les premiers réglages qui sont hyper, hyper pointus. Quoi. Oui. Une fois qu'on les a trouvés, qu'on s'est calé...
Est-ce que tu te souviens du premier objet, ou peut-être au moins du premier sentiment que tu as eu à Valdrome, le premier objet que tu as observé?
Ah, c'était Saturne.
C'était Saturne.
C'était Saturne, oui. Ouais. Et c'est vrai que Saturne, c'était magique. Marie, pareil, on était scotchés, quoi.
Oui, c'était l'émerveillement. C'était comme dans les livres. Enfin, on n'y croyait pas, quoi. C'est vrai que... Bah, moi, j'ai été plongée aussi un peu dans la nature parce que, étant jeune, j'étais scout, donc la nature, je connaissais. Mais
on apprend le ciel chez les scouts, les constellations.
Pas vraiment, mais enfin,
on apprend à regarder. Peut-être.
Voilà, c'est ça, à observer, à regarder. C'est plutôt ça, à respecter aussi. Mmh. Et là, en fait, c'est une communication, en fait, avec, je vais pas dire avec l'au-delà, c'est pas ça, mais avec un autre monde. On ne sait pas s'ils nous observent, mais nous, on les regarde. Ça nous apporte beaucoup, de l'apaisement. Des moments, on a l'impression que on dirait, c'est pas Paris qui s'éveille, mais c'est la nuit qui s'éveille. Chaque petit objet qui brille, qui pointe son nez, qui derrière, il y a une histoire. Je ne la connais pas, hein, l'histoire, mais alors des fois, je me l'invente. Marc me raconte aussi, parce que des fois, je lui pose plein de questions, parce que je ne comprends pas forcément tout. Mais des fois, juste d'observer, ça me suffit. Je n'arrête pas de lui dire que j'aimerais même dormir à la belle étoile et regarder. Et des fois, on voit la nuit, elle est complètement... quand on regarde, on a l'impression que c'est un peu charbonneux et qu'il y a ce côté, que c'est pas... qui a encore plein de choses à observer, en fait. Même dans la nuit profonde, quand on regarde, on voit, et voilà. C'est une communication. J'ai l'impression que c'est une communication avec le ciel. Et ça nous apporte quelque chose, mais je ne sais pas quoi. L'apaisement, et puis ça nous recale un petit peu, hein, dans notre monde, dans notre vie de tous les jours, et on se sent petit, énormément petit, quoi.
Et Marc, tu t'es mis à la photo pour voir les couleurs, justement, ou c'était... Tu fais aussi un peu de l'astrophotographie, tu pratiques?
Oui, je me suis équipé pour faire de la photo. J'ai pas une... En fait, c'est à partir d'un Canon Reflex, un Canon 6D, que j'ai défiltré moi-même.
Okay.
Un Azier, c'est un ordinateur.
C'est un micro-ordinateur
qu'on met sur le télescope. Ouais. Avec un petit système de suivi qui permet de suivre l'astre qu'on veut photographier, l'astre ou la nébuleuse, peu importe.
Tu les publies sur des forums, peut-être?
Non,
tes photos, on peut les voir?
Non. Oui, tu peux les voir, je peux te les montrer.
Non, mais si les auditeurs veulent les voir.
Ah oui, non. Ouais. Si tu as un site, il n'y a pas de souci. Mais non, mais on arrive à faire des belles photos, quoi. Bon, c'est des poses de 3 heures quand même. Hein. Le maxi que j'ai fait, là, c'est des poses de 3 heures. Ouais. Mais on arrive à sortir de belles photos.
Voilà, donc on voit que c'est possible, hein, c'est pas à la portée, c'est à la portée en fait de tous ceux qui ont envie de le faire en réalité, et de se donner les moyens de le faire. C'est pas juste nous qui délirons derrière nos micros dimanche après dimanche sur des trucs que personne ne comprend. Non, en réalité, Voilà, l'astro, c'est l'astro amateur. Ça, c'est ça le concept. Hein. Donc, c'est forcément accessible. Quoi.
Oui.
Tout le monde peut le faire.
Et c'est pas forcément accessible. C'est pas uniquement une question de finance. Parce qu'on l'a dit, avec une paire de jumelles et une carte du ciel, déjà, on peut faire plein d'astro. Quoi. Oui. Donc, voilà. Et même un télescope, on avait fait une émission là-dessus sur les. Sur le matériel, sur tout ça. Et on avait vu que pour déjà 400 €, là, on pouvait trouver des trucs qui permettaient déjà de bien s'amuser.
Ah ouais,
alors 400 €, je suis d'accord, il faut les avoir. Mais ce n'est pas non plus des budgets de malade. Quoi.
Oui.
Voilà. OK. Et du coup, maintenant, ton télescope, tu l'as installé comment ? Tu t'installes, t'es sur la terrasse, t'as fait un...
Non. Je me suis monté une baraque de jardin, entre guillemets, avec un toit ouvrant.
T'as fait une petite coupole, en fait, c'est ça ?
Non, c'est une baraque de jardin. C'est une baraque de jardin, avec un toit coulissant.
Qui se décale.
Ah ouais ?
Ouais.
Mais t'as fait ça toi-même, ou c'est...
Oui, j'ai acheté la baraque, c'est une baraque... métallique.
Ah oui.
Ouais, c'est le abri de jardin.
C'est un abri de jardin métallique, en fait. Hein.
Ok.
Tu trouves ça à gamme vert.
T'as coupé le toit et c'est parti.
J'ai pas coupé le toit. Comme ils te le livrent en kit, il faut le monter.
Ah ok.
Donc j'ai monté les murs et quand je suis arrivé au toit, j'ai mis un rail, j'ai mis deux rails et puis j'ai fait coulisser mon toit dessus.
Ok, très bien.
Voilà, et ça fonctionne très bien.
Ça marche bien, ouais.
Ouais, ça marche bien. C'est simple, ça souffle très bien.
Quel confort d'avoir un télescope dans son jardin.
Oh, c'est super. Non, mais c'est super.
C'est bien.
J'ai pas besoin de monter, démonter. Quand je pars en week-end, je démonte tout, je mets tout en sécurité parce que je reste pas dans le jardin.
Oui.
Mais enfin, sauf la baraque de jardin qui reste. Mais tout le matériel est rentré. Mais disons que comme aujourd'hui, tout est dans. Si je veux regarder le ciel, j'en ai pour 2 minutes.
Ah ouais, génial.
J'ai qu'à brancher, mettre mon œil et voilà, c'est parti quoi.
Ouais.
Parce que comme tu parlais, comme tu disais, il était tout automatique. Tu peux lui dire montre-moi ça, et puis
il
y va.
Oui.
Mais ça, il faut d'abord faire ce qu'on appelle la mise en station. On en a déjà parlé dans l'émission. Tout préparer le télescope. Et du coup, là, c'est vrai, on s'affranchit de cette demi-heure, cette heure de préparation.
Oui. Là, il est en fixe, il est calé, il bouge pas. Quoi.
Ah, c'est magique.
Ouais, ouais. J'ai qu'à lui demander. Je rentre, j'allume, je lui demande ce que je veux voir. Il y va tout de suite. Ouais.
Je vois des yeux qui brillent de jalousie.
Ok. Ouais.
Excellent. Ouais.
Des yeux de partage.
Oui.
Mais en tout cas, ouais, pour revenir sur l'émerveillement que ça procure, voilà, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus que c'est toujours un beau moment de spectacle, de nature, de beauté, de reconnexion. Voilà, ça fait du bien.
Mm-hmm.
Comme tu disais, se connecter à quelque chose de plus grand.
Ouais.
C'est bien des fois. De se sentir petit.
Et de beau.
Et de beau aussi, ouais. Tout à fait.
Ok.
Bah, merci beaucoup d'être venu nous faire partager un peu vos expériences là, sur l'astronomie. On espère que vous avez pris plaisir à écouter cette émission. On vous souhaite de belles observations du ciel et on vous dit à la semaine prochaine.
Salut.
Bon dimanche.
Salut. Merci. Au revoir.